o cachê oriental. Je suis totalement satisfait.
Moi, c'est l'île de Combati au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux bâtiments de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci d'avoir choisi Radio Capi qui vous propose Parole aux auditeurs. Les quotités des rétrocessions destinées aux provinces arrivent à peine à destination. La Troïka stratégique s'en est rendue compte lors de sa réunion du lundi 6 juillet dernier. Avec le démembrement et le passage de 11 à 26 provinces, certaines personnes estiment que le gouvernement devra faire face désormais aux multiples défis de développement, notamment au financement de l'installation de ces nouvelles entités. Une autre opinion pense que pour faire face à cette situation, le ministère des Finances et la Banque centrale devraient rapidement identifier des solutions appropriées, consistant notamment à transférer directement aux concernés leurs ressources budgétaires. Qu'en pensez-vous? 081-890-6315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans cette émission. Mise en onde par Jean-Claude Nciala, Julie Fez assure la réalisation, J.R. Longuembo est à la coordination et Pierrot et la Mégie vous la présente sous la supervision de Martin Assebouzian. De fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Enfin, la RDC compte ses 26 provinces après le rapport des différentes commissions qui ont travaillé pour faire le point sur les patrimoines de provinces à démembrer. Ces 26 provinces sont déjà mises en place. C'est la grande question pour le moment, c'est comment arriver à assurer le financement de leurs des opérations, des mises en place effectives, ainsi que de leur développement. Mais revenant sur la problématique la question de la rétrocession, la Troïka stratégique du gouvernement s'est rendue compte que les quotités des rétrocessions destinées aux provinces, quand elles étaient à 11, posaient déjà problème pour arriver correctement à destination. Alors plusieurs personnes pensent que le gouvernement devra maintenant faire face à ces défis de pouvoir faire arriver ces quantités à ces provinces alors qu'elles sont maintenant 26. Alors, quels sont le mécanisme plus efficace pour assurer le financement de la mise en place de ces provinces ainsi que leur développement? 081-890-6315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. Et nous avons associé à cet échange le professeur Chuban Kalala, professeur de droit. Professeur, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle à nos auditeurs que nous avons dû parler des questions des violences sexuelles aujourd'hui, mais les sujets ont été changés vu les difficultés d'avoir l'invité principal de l'émission. Alors, c'est ainsi que nous passons sur la situation de ces provinces. Professeur, bonjour, bienvenue.
Merci, Pierrot, pour m'avoir invité.
Et je me rappelle que nous étions avec vous dans ce studio il y a quelques mois, quand on s'est tiraillé encore pour savoir si exactement on arrivera à avoir 26 provinces, mais enfin, les 26 provinces sont là.
Oui, enfin, les 26 provinces sont là, mais les difficultés sont devant nous. Les difficultés ne sont plus derrière nous, sont devant nous.
Mm-hmm.
Et vous avez évoqué certaines situations qui sont assez difficiles. Et donc, nous espérons que le gouvernement de la République, malgré la situation difficile du pays, des problèmes de trésorerie qui se posent, etc., le gouvernement prendra des dispositions nécessaires pour permettre à ces provinces de pouvoir fonctionner. C'est vrai. Peut-être que je peux déjà aborder le sujet pour dire que tout ça est prévu sur papier, dans la loi. Je renvoie les auditeurs de Radio Capi à l'article 11 de la loi sur l'installation des nouvelles provinces.
Mm-hmm.
Je peux peut-être, pour des raisons pédagogiques, lire cette disposition
sans problème,
parce qu'on fera des discussions là autour de cet article. L'article 11 de la loi dit ceci, que dès l'installation des nouvelles provinces, le gouvernement de la République initie, en concertation avec les autorités provinciales, un programme d'équipement, de réhabilitation et de construction des infrastructures nécessaires au fonctionnement des nouvelles provinces. Le gouvernement prévoit sur une période de 5 ans un budget pluriannuel d'investissement destiné au financement des travaux prioritaires des nouvelles provinces. Il procède annuellement à une évaluation des travaux réalisés dans le cadre du programme visé à l'avenir présent du présent article. Le rapport d'évaluation de ces travaux est présenté à chaque session budgétaire à l'Assemblée nationale et au Sénat. Voilà ce qui est prévu sur papier.
Mmh.
C'est vrai, comme vous avez dit, nous avons discuté longuement de la population congolaise, les Radio Okapi a reçu beaucoup d'émissions à ce sujet. Tout le monde s'inquiétait. On se disait, écoutez, tout d'un coup, là, on va aller à 26 provinces, alors que dans les 11 provinces existantes, il y a pas mal de difficultés sur lesquelles on ne trouve pas des solutions. Qu'est-ce que ça va être? C'était des inquiétudes tout à fait légitimes.
Mmh.
Bon, mais le gouvernement a tenu à faire respecter la Constitution de la République, parce que l'article 2 de la Constitution prévoit ces provinces. Tant qu'elles ne seront pas être installées, on va se dire, mais on ne respecte pas la Constitution du pays. Et donc, il y avait ce problème, il fallait résoudre. Donc, le gouvernement a dit, écoutez, coûte que coûte, il faut qu'on installe les nouvelles provinces, malgré les difficultés qui sont réelles. Bon, maintenant, on y est. Et comment on va résoudre le problème de financement des nouvelles provinces? Très clairement, où est-ce qu'on va trouver de l'argent à envoyer dans, non seulement dans les nouvelles provinces, même les anciennes, ce sont là, ça date de l'autre. Maintenant, la loi dit que dès que ces nouvelles provinces seront installées, on va élire les gouverneurs de province le 31 août, selon le calendrier qui vient de sortir.
Oui.
Et après l'élection de gouverneur, c'est pas fini. Ils devront mettre en place leur gouvernement et puis venir devant les assemblées pour obtenir l'investiture, donc l'acceptation. Et puis après, l'ordonnance du président de la République va investir le gouverneur et puis il faut se mettre en place. Maintenant, dès que tout cela est terminé, que chaque nouvelle province sera dotée de ses organes propres, en ce moment-là, le gouvernement va contacter ses nouvelles autorités provinciales pour mettre en place un programme de financement. Pour construire des bureaux, des infrastructures, etc., etc. Bon, et puis après, le gouvernement va mettre en place un programme pluriannuel, 5 ans, pour voir chaque année dans le budget de l'État, prévoir des crédits qu'il faut débloquer chaque année pour répartir entre ces provinces, de manière à ce que ces provinces puissent avoir de l'argent pour fonctionner. Donc ça va venir. Mais non, les difficultés sont devant nous, c'est vrai. Il faut tout de même que le gouvernement prennent des dispositions spéciales, dégagent des marges de bénéfices, parce que franchement, il y a dans certaines nouvelles provinces, les gens partent pratiquement de zéro, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. À la fin du mois, il faudra payer les gens. Même les nouvelles politiques, il faut les payer. Bon, il faut trouver de l'argent. Malheureusement, cela n'était pas prévu dans le budget 2015. Mm-hmm. Parce qu'on a installé les nouvelles, voté la loi sur l'installation des nouvelles provinces après l'adoption du budget 2015. Donc les crédits n'étaient pas prévus pour cette grande réforme, pour cette année-ci. Mais tout ce qu'on peut demander, c'est de faire en sorte que le gouvernement,
mm-hmm.
qui s'est engagé dans cette réforme importante, eh bien, puisse trouver des moyens financiers pour pouvoir permettre à ces provinces de fonctionner.
Mmh.
Il y en a pour rien, sûr. Il n'y a absolument rien.
Voilà.
Le problème qui s'est posé, si la Troïka, en fait, qui aurait mis le Premier ministre autour du ministère, ministre du budget, ministre des Finances, de l'économie et du commerce, et si on se rend compte qu'il y a eu des problèmes dans la rétrocession, cela veut dire que la loi sur la libre administration des provinces, que ce soit la Constitution, avait déjà prévu le financement de ces provinces, comme elles existaient à 11. On avait déjà des problèmes très sérieux. On a eu plusieurs débats autour de faudrait-il aujourd'hui la rétrocession ou bien les retenir à la source des 40%. Il faudrait mettre en place la caisse des péréquations. On a mis aussi beaucoup de temps à voir toutes ces opérations se dérouler d'une manière claire pour permettre à ces provinces. Mais est-ce que déjà le fait d'avoir ce programme spécial, ces crédits spéciaux qu'il faudrait mettre en place, comme vous l'avez dit, après l'installation des comme là-bas, les prévoit, c'est un fait, mais aussi revenir et appliquer ce que la Constitution prévoyait déjà quant à la retenue à 40% et même la rétrocession qui était aussi pratiquée d'une manière trop compliquée, avec beaucoup de confusion. il n'a pas la caisse de péréquation, comment alors va-t-on évoluer avec ce que la loi, cette loi de mise en de programmation dit, ce que la Constitution et la loi sur la libre administration des provinces disaient déjà qu'on ne parvenait pas à mettre en pratique comme il faut.
Oui, vous savez, vous soulevez le problème fondamental. Comme on dit, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Vous savez, déjà en 2007-2008, nous avions posé ce problème à l'Assemblée nationale. Je disais, mais des gens, dans l'euphorie, par enthousiasme, bon, moi je dirais même par une folie collective, hein, disaient que bon, nous allons installer les 26 provinces dans un délai de 3 ans. J'ai posé la question aux gens, mais qui a fixé ce délai de 3 ans et comment ça va se faire, quoi? Parce qu'il n'y avait pas une étude préalable. Bon. Ils m'ont dit, écoutez, quand nous étions en Sun City, la communauté internationale nous avait promis de nous donner de l'argent pour financer cette réforme. Donc on a fixé 3 ans parce qu'on attendait l'argent de l'extérieur. C'était déjà de l'irresponsabilité d'engager une méga réforme dans votre pays, de passer de 10 provinces à 26, bon, plus la vie de Kinshasa, de 11 à 26, en comptant sur l'argent de l'étranger. C'est de l'irresponsabilité. Et ça n'a pas marché. Nous, on a supprimé ce délai des 3 ans, on a dit, bon, on va faire une loi de programmation pour qu'on installe ces provinces de manière progressive. Pour ça, plus du temps. C'était quoi? C'était le problème de l'argent. On avait évalué à un moment donné le budget global à 2 milliards de dollars pour installer ces provinces. Voilà. Mais où est-ce qu'on va trouver 2 milliards de dollars? S'il fallait attendre qu'on puisse les réunir pour lancer la réforme, on n'allait jamais faire cette réforme. Peut-être qu'on aurait pu faire comme le Marshall Mobutu a fait en 1988. Et donc, on a commencé à faire un titre expérimental, commencé par la province du Kivu. On a coupé en 3 et puis on peut évoluer progressivement. Mais nous, on a fait globalement directement de 11 à 26. Ça pose le problème du financement. Mais non, on ne va pas refaire le passé aujourd'hui. Il faut prendre les choses, Pierrot et la Ligue, prendre les choses telles qu'elles sont aujourd'hui et faire preuve de pragmatisme. À mon avis, le principe devrait être ceci. Voilà. Au fur et à mesure que les difficultés vont surgir, au fur et à mesure, on va trouver des solutions. En d'autres termes, à chaque problème, une solution. À chaque difficulté, une solution. Et on avance. On ne va plus faire des choses de manière idéale, avec des schémas préétablis, avec des principes préétablis dans lesquels on va tous s'engouffrer. C'est très difficile. À chaque problème, une solution. On aurait pu faire, j'ai donné un exemple il y a quelques semaines devant les antennes de Radio Capi, la ville de Kinshasa, où on se trouve aujourd'hui, Pierrot et la Mèche, les Belges ont décidé au mois de juillet 1923 de déplacer la capitale de Boma pour l'amener ici, à Léopoldville, Kinshasa aujourd'hui. La décision était prise en 1923. Mais en attendant, ils ont urbanisé la ville, construit des infrastructures, préparé l'accueil de la capitale ici, en quelque sorte. C'est très simple, c'est la logique élémentaire. Hein. Des parents qui attendent un bébé, eh bien, ils commencent à préparer. Bon, le bébé qui arrive là-bas, il faut l'acheter un berceau, il faut préparer un shampoing, etc. Ça se fait deux choses. Et ce n'est qu'en 1929, 6 ans après, que la capitale aille transférer effectivement de Boma ici. Donc on devait préparer les choses. On aurait pu suivre ce schéma-là. Mais ce n'est pas le schéma que nous avons suivi. Mais on n'est plus là. Maintenant, la situation est là. Nous avons 26 provinces. Les anciennes avaient déjà pas mal de difficultés. Il y avait dans les assemblées provinciales où les députés provinciaux connaissaient des mois de retard. On avait des difficultés. Mais là, il y a d'autres provinces qui s'ajoutent. Problème. Vous revenez sur la question de 40%. Eh bien, le débat sur les 40%, je pourrais dire que c'est un débat qui est vieux, qui est aussi vieux que le monde dans notre pays. On envoie l'argent en province, ça arrive au niveau des chauffiers, le gouverneur, les assemblées provinciales retiennent l'argent là-bas. Ça n'arrive pas jusqu'au niveau des entités territoriales décentralisées qui se plaignent en disant que l'argent c'est pour la province, mais on bloque tout ça au niveau des chauffiers, nous ici on ne voit rien. C'est un débat. Maintenant, comme je l'ai dit, il faut maintenant être pragmatique. Les difficultés sont devant nous et ces difficultés sont nombreuses. On va les attaquer progressivement, petit à petit. Comme je le dis, le principe, c'est à chaque difficulté, une solution.
Il faut une solution.
Et on avance. On avance.
Merci. Félicien, vous êtes ici à Kinshasa. Jérôme est à Kalinga dans le Kasaï central. Ernest Amatadi dans le Congo central. 081-890-6315.
Parole aux auditeurs.
Félicien, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour Pierrot, et bonjour professeur, notre invité, et bonjour aussi à tous les auditeurs.
Voilà, on vous écoute, quel est votre point de vue par rapport à ça?
Oui Pierrot, les voix se sont élevées pour dénoncer cette façon précipitée d'installer les 26 provinces, mais aujourd'hui on ne peut plus revenir là-dessus parce que c'est déjà fait. Et comme l'a dit notre invité, c'est maintenant que les difficultés commencent, c'est maintenant que ceux qui s'opposaient à ce système auront raison. Alors, nous demandons à ceux qui ont précipité cette affaire d'être sérieux dans la gestion de la chose publique, de mettre du sérieux dans les ressources que nous avons dans le pays. Et parce que tant que nous continuerons avec cette gestion que nous avons de la corruption, de clientélisme, de pillage des ressources du pays, les difficultés deviennent encore de plus en plus grandes parce que maintenant nous devons compter sur nous-mêmes et non pas sur l'extérieur.
Mmh.
Et moi je pense que ces programmes dont on dit, programmes de qu'on dit dans les textes dans la Constitution, programmes de financement, devrait plutôt précéder l'installation de ces 26 provinces. On devait déjà savoir qu'on a autant et qu'on doit affecter à telle entité autant, parce que toutes les entités n'ont pas les mêmes ressources, les mêmes moyens, et les mêmes infrastructures. Il y en a qui en ont un peu plus, il y en a qui en ont moins, et on devait prévoir tout cela pour qu'on puisse voir comment on peut démarrer. Il y a le problème de la caisse de péréquation qui n'a jamais été réglée. Et pour ces provinces qui sont vraiment en difficulté, qui n'ont rien, et je ne sais pas comment ils vont démarrer. Déjà, la rétrocession avec les 11 provinces a posé des problèmes jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est le manque de sérieux. Moi, je pense que c'est aujourd'hui que nous devons corriger la manière de gérer, parce que nous avons créé un problème qui va nous coûter très cher, qui va nous poser beaucoup de problèmes. Si ceux qui gèrent la chose publique peuvent prendre des dispositions pour que plus rien ne soit comme avant et que toutes les ressources du pays soient vraiment gérées de façon à ce que ça puisse être réparti équitablement dans toutes ces provinces et que ça puisse arriver à chacun du peuple congolais qui vit dans ces endroits-là. Si on a fait seulement pour des raisons politiques, parce qu'on voulait embrouiller des cartes, alors là, nous sommes partis pour la gloire dans la misère et des problèmes qui vont venir après.
Merci.
Mais si vraiment pour l'intérêt de la République, c'est maintenant qu'on doit se dire, comme un parent peut dire, voilà, maintenant, nous avons des enfants qui sont scolarisés. Avant, nous n'avions que des petits-enfants. Maintenant, le budget devient costaud. Nous devons réduire ceci, nous devons réduire les peines publiques, nous devons faire cela pour que nous puissions arriver à résoudre les problèmes. Mais si on continue avec l'aventure dans la gestion de la chose publique, alors nous sommes partis avec des querelles, avec des situations, avec des problèmes dans des provinces.
Merci beaucoup, Félicien. C'est un message. Vous avez interpellé le responsable du pouvoir public. Vous estimez qu'il faudrait désormais mettre du sérieux, prendre des dispositions dans la gestion rationnelle des ressources, considérant que la tâche est immense et on doit mettre du sérieux. Vous avez beaucoup insisté sur ces mots, mettre du sérieux dans la redistribution des ressources. Comme ça, on peut arriver à financer. Mais si on veut le faire parce qu'on a des raisons politiques, on risque complètement à débuter à beaucoup des difficultés. Merci beaucoup, Félicien. Et Jérôme, vous êtes à Kalinga, c'est dans la province du Kasaï central. Bonjour, Jérôme.
Bonjour, Pierrot, et bonjour, amis auditeurs de la Radio Kapi.
Alors, on vous écoute par rapport à la province du Kasaï central. Aujourd'hui, on sait qu'il y avait la régie provinciale qui permettait quand même de pouvoir mobiliser les recettes provinciales de Chikapa, Louis, Ilebo, Moïka, et alors dans la configuration actuelle, qu'est-ce que vous proposez pour qu'on arrive à faciliter aussi le problème de fonctionnement de cette nouvelle province?
Voilà, merci beaucoup, M. Pierrot. J'arrive d'abord à préciser, c'est Jérôme Michamilingue Touneille. Je suis journaliste d'une certaine chaîne de radio ici à Kananga.
Mm-hmm.
Vous savez, M. Pierrot, moi j'ai toujours eu une tâche dans mon cœur. Je me demande si ce pari sera réellement gagné. parce que depuis qu'on a démembré, bon, je ne dis pas que je suis contre, mais comme c'est déjà fait, bon, nous devons tous marquer les pas des danses, nous devons nous y conformer. Mais je demande à toutes les provinces nouvellement créées, Piro, on ne doit pas toujours tout attendre du gouvernement central, attendre sur les financements du gouvernement central. Il y a d'autres problèmes qui peuvent être résolus localement, M. Piro. Hein, le gouvernement central doit installer les nouvelles provinces. Le gouvernement doit financer les élections. Le gouvernement doit financer les dialogues. Le gouvernement doit financer les élections provinciales. Mais tout ça, c'est de l'argent. Mais c'est pire, ici à Kananga, il y a un système forêt-coque. C'est ce que je propose à toutes les provinces nouvellement créées, si elles peuvent aussi copier ce système. Forêt-coque, fonds de reconstruction du Kasaï occidental. Ce système-là consistait à la contribution de chaque citoyen. Donc, chaque Kasaïen donnait 1000 francs. Donc, chaque mois, chaque Kasaïen donnait 1000 francs. Par famille aussi. Ça dépend de ça. Mmh. La province à construire quand même des maisons, de l'État, à acheter quand même des billes pour la province. Donc, il y a des problèmes qui peuvent être résolus localement. Alors, ces provinces-là, nouvellement créées, si elles peuvent aussi copier ce système-là de forêt-coque à la contribution de chaque citoyen localement. Hein, dans la province-là, chaque citoyen contribue au moins 1 000 francs. Ça va aider à résoudre quand même d'autres problèmes avant que le gouvernement central ne vienne en aide.
Merci beaucoup, Jérôme. Vous estimez qu'on ne pourra pas tout attendre du gouvernement central. Il y a lieu que les nouvelles provinces puissent initier. Ça sont les contributions volontaires, par exemple, au niveau de la population, avec cette expérience du Kasaï occidental. Les gens qui peuvent eux-mêmes financer certains travaux, certaines choses peuvent être financées par la population localement. Tout dépend de comment cela peut être défini par les autorités provinciales qui seront mises en place. Merci beaucoup. Jérôme, Ernest, vous êtes à Matadi, dans la province du Congo central. Bonjour, Ernest.
Bonjour, M. Pierrot, et bonjour à notre invité.
On vous écoute.
Merci bien. Je crois que, en attendant l'introduction lancée par notre invité, la situation est très claire. Mais moi, je reviens un peu en arrière par rapport à l'histoire même du découpage de notre territoire. D'une façon rapide, nous sommes partis des découpages de notre territoire depuis la colonisation. La première fois, nous sommes partis en 1895, 1926, 1933, 1964, 1980 et maintenant 2015. Donc nous sommes partis par les effets 6 provinces, 12, 14, 9, jusqu'à 26 aujourd'hui encore. Maintenant, on doit se poser la question. Ces découpages antérieurs, qu'est-ce qui a fait que déjà en 64, les 25 provinces étaient déjà sur le plan avec la consigne de Louambourg. Mais qu'est-ce qui a fait que l'échec soit arrivé et puis l'application a posé problème. Maintenant, aujourd'hui que nous revenons sur ce système, soit disant qu'il faut ramener la population, les diriger vers les dirigeants et développer les pays au niveau de la base, non, mais n'est pas donner une solution à partir de Kinshasa, mais cela soit partie des provinces, c'est une bonne chose. Mais aujourd'hui, on se pose, la réalité est là, la décision est présente avec nous. Nous sommes là en train de vivre les 26 provinces. Mais, moi je me dis, au-delà des 11 des difficultés par rapport à l'article 11 qu'on vient de lire, j'estime qu'il faudrait un sursaut de nationalisme, un patriotisme avéré pour tous les animateurs qui seront placés à la tête de ces provinces, pour que ceux-ci aient à l'esprit des sacrifices et non seulement contenter de leurs intérêts, de leurs gouverneurs, vice-gouverneurs, et à président de l'Assemblée, ministre, ainsi de suite. Non, je pense que par rapport aux difficultés que les VIS viennent de démontrer, parce qu'il a dit que dans cette province, il n'y a rien. Comme il n'y a rien, je réclame un sursaut du patriotisme pour que les dirigeants puissent avoir à cœur ces difficultés et non de commencer à se transformer en syndicalistes pour commencer à réclamer leurs intérêts. C'est pour cette raison que l'Assemblée nationale, lorsqu'il va voter le budget national, on doit tenir compte de toutes les difficultés de nos provinces pour que les pays puissent avoir un budget conséquent pour faire face aux difficultés. Et la Cour des comptes, le mois venu, pour aller voir qu'est-ce que vous avez fait, vous, provinces, par rapport au montant ou aux recettes liées à votre disposition, il faut que la loi soit exécutée et qu'il n'y ait pas de compromission. sinon on va continuer, il sera une jalousie si par exemple le Congo central se développe rapidement parce que n'a pas été divisé, il y a déjà des infrastructures qui existent, et une nouvelle province, on va dire, bon, vous, le Congo central, allez soutenir la province de Kwilu. Je veux, ce genre de choses doivent être élaguées au niveau des budgets nationaux par le système de la caisse de péréquation. Sinon, nous allons vivre un déséquilibre au niveau des provinces, et les rébellions peuvent recommencer à renaître tout en disant que la balle de a été consacrée par ce système de découpage.
Merci beaucoup, Ernest. Vous avez, comme Félicien, évoqué les sursauts d'orgueil, hein, de nationalisme et patriotisme. Vous souhaitez même que les gens considèrent plus, comme le disait Félicien tout à l'heure, l'intérêt de la République plutôt que leur propre intérêt pour arriver vraiment à réussir. Il faudrait, au niveau du budget hein, de 2016, que tout cela soit pris en compte, mais aussi les contrôles sur l'usage, de quelle manière on aura à gérer les ressources affectées à la mise en place de ces provinces et assurer leur développement et leur fonctionnement. Merci beaucoup, Ernest, pour éviter qu'il y ait des mécontentements et que plutôt que les découpages puissent être considérés comme la balkanisation du pays. Merci beaucoup. Andric, vous nous appelez des Kolwezi. Kolwezi, c'est dans la province de Lualaba, je crois bien. Bonjour, Andric.
Bonjour, Gilles. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Kati. Par rapport au sujet du jour, sujet du chagrin, le projet du chagrin, nous avons assez entendu du plan ambitieux de notre gouvernement. On veut toujours nous prouver les prouesses du gouvernement, les capacités du gouvernement. On peut commencer par notre budget. Notre budget est de 7 milliards de dollars. C'est insuffisant pour le développement de nos anciennes provinces, des 11 provinces. C'est comme si un parent avait 11 enfants qui ne supportait pas convenablement, mais il en avait 25. Je peux vous donner l'exemple de la province du Haut-Lomami. Les infrastructures, l'Assemblée provinciale n'a pas de salle, le gouvernement n'a pas de place. La mairie, on ne sait pas où on va implanter tous ces bureaux-là. Le plan d'accompagnement du gouvernement central, c'est bien, ce sont des écrits. Mais la réalité, là, ça suscite un patriotisme. Pour développer le pays, on ne doit pas s'appuyer sur les écrits. Hein. D'ailleurs, les écrits, on ne les respecte pas. Vous voyez avec la rétrocession de 40%. Ça posait des problèmes. Même le président au Katanga, il avait confirmé cela lors d'un discours à Swahili. Il a dit, même si on ne respectait pas la rétrocession des 40%, quand même, on donnait quelque chose. Mais c'est pas ça. Il faut respecter ce qu'on écrit. Il faut respecter la Constitution. Et après, les équipes qu'on a montées pour inspecter les nouvelles provinces. C'était des visites de 3 heures, 4 heures. Est-ce qu'on peut résoudre, on peut voir les problèmes qui entraînent les nouvelles provinces? Ça, c'est un fait.
Voilà, merci beaucoup, André, que le mot patriotisme est revenu encore. Vous estimez que le principe, c'est de pouvoir respecter les écrits, ce que la loi dit. Mais avec notre budget, vous vous inquiétez qu'il soit vraiment à mesure de faire face aux problèmes de mise en place effective des 26 provinces et leur équipement. Vous avez donné l'exemple de la province du Haut-Lomami, mais vous estimez qu'avec les sursauts de patriotisme, comme vous l'avez dit, on peut arriver à résoudre toutes ces situations, comme le professeur le disait tout à l'heure. Quand on a un problème, il faut s'adapter pour trouver des solutions. On va terminer cette première partie des auditeurs avec vous, Franck. Vous nous appelez de Vienne. Vous nous avez rejoint dans cet échange. Bonjour, Franck.
Bonjour, M. Thiro. Bonjour au prof. Je salue et remercie pour la pertinence de ces objections. Merci également à tous les amis qui se sont déjà prononcés.
On vous écoute, Franck. Comment on peut arriver à faire face? Et si vous avez donné L'exemple avec les États-Unis d'Amérique et les autres pays qui fonctionnent sur le modèle du fédéralisme et qui permet quand même à ces entités d'être assez autonomes dans la conception de leur financement, de leur projet. Alors comment on peut adapter cela dans notre configuration pour arriver vraiment à permettre à ces nouvelles provinces de fonctionner?
Merci beaucoup, Pierrot. Je crois que je vais tenter de me réexpliciter à base de ce que le prof venait déjà de placer comme ça. Selon moi, je trouve que les défis sont déjà là. Nous devons savoir les affronter de manière réaliste et pragmatiste. Puis, la difficulté, selon moi, n'est plus au niveau des nombres de provinces que nous avons, parce qu'on vient de passer de 11 à 26 provinces, mais je crois que le problème maintenant, c'est de savoir avec quel esprit ces nouvelles provinces vont être administrées et gérées. Et par rapport à tout ce que nous allons dire, par rapport à tout ce que nous sommes en train de dire et par rapport à tout ce que nous disons ici, M. Thiro, on ne peut pas penser gérer un État sans loi ou on ne peut pas penser gérer un État avec des lois qu'on ne respecte pas. On ne peut pas penser gérer un État sans esprit, sans volonté politique, où on ne peut pas penser gérer à base de ce qui nous vient dans la tête et la pitié. Je crois que nous n'allons plus nous insurger contre ce qui vient d'être passé. Donc, le démembrement est là. C'est déjà prévu dans la Constitution. Si nous sommes tous constitutionnalistes, on devait vraiment accepter que cela arrive. Mais la question, c'est de savoir comment cela va maintenant être fait. Parce que déjà, avec les 11 provinces, nous le savons tous, c'est comme un secret de polichinelle. Si chacun ne voulait pas que les provinces puissent fonctionner de manière respectable. Et c'est seulement maintenant, avec les 28 provinces, que le changement va être automatique. Ce sont des questions que nous devons nous poser. Est-ce que ce changement-là va venir automatiquement ou ça dépend maintenant de la flexibilité citoyenne de ces gens qui sont à Kinshasa, qui devront aussi faire de leur côté pour que ça puisse marcher? J'ai tenté de donner les exemples de certains pays. Je prends l'Allemagne, je prends les États-Unis, je prends le Canada. Mais nous savons tous que dans ces pays-là, il y a aussi des provinces qui sont gérées de manière fédérale. Mais on n'a jamais eu de problème comme chez nous parce que chez eux, ce sont d'abord des lois de leur République qui canalisent et schématisent la prise de toute décision sur la gestion des activités étatiques. Puis, ce ne sont pas des individus qui sont au-dessus des lois, mais ce sont des lois qui sont au-dessus des individus. Mais seulement chez nous, on veut dire une chose et son contraire, on a pensé démembrer, mais l'argent devait venir de l'extérieur. Mais est-ce que c'est vraiment réaliste? Est-ce que c'est vraiment responsable? Je crois que si on aime ce pays, on ne va plus se mettre à discuter. Il y a des amis qui ont déjà suggéré de procéder par des collectes de 1000 dollars. Je vais peut-être aussi dire que c'est bien. Mais est-ce que c'est tout Congolais chez nous qui a la possibilité de se trouver facilement ces 1000 dollars?
1100
dans les Kassai, il y en a qui se les trouvent. Mais dans certains coins, moi je sais que dans certains coins, il y en a qui vivent parfois de 3000 francs congolais le mois. Et demander à un tel Congolais de donner 1000 francs le mois, c'est trop lui demander. Je crois que l'État, dans ses dispositions régaliennes, a la mission de prendre toutes les décisions ayant pour épicentre la vie des citoyens, mais je crois que la vie de l'homme, la priorité de chaque politique, ça doit d'abord être la vie de ses citoyens. Mais quand on voit parfois comment certaines décisions sont prises chez nous, on se demande même si ces décisions sont prises pour répondre aux besoins des citoyens ou c'est peut-être en vue de certains calculs politiciens invisibles.
Merci beaucoup, Franck. Vous êtes revenu sur le respect des lois. Tout ça ne peut réussir quand on est en mesure de respecter nos propres lois. Les principes qui ont été fixés au niveau de la Constitution, que ce soit dans les différentes lois, doivent être respectés. Alors, il faudrait aussi la volonté politique au niveau de Kinshasa. Vous avez estimé qu'il y avait Kinshasa qui a entravé le fonctionnement de 11 provinces, les interférences. Mais est-ce que les choses ont changé aujourd'hui dans la conception politique pour permettre à ces 26 provinces de fonctionner librement? Merci beaucoup, Franck. Jean-Marie, vous êtes à Kinshasa. Vous gardez la ligne. Dominique, qui est en Bujimayi au Kasaï oriental. Nous allons revenir à vous. 081-890-7315.
Ils parlent de leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui y ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune racontée par ses acteurs. Tous les dimanches, 12h15, hors de Kinshasa, en compagnie de Kelly Kouté sur Radio Capi.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Professeur Choubankalala, vous avez suivi les auditeurs, tous sont d'accord, les provinces sont là, mais il y a un terme que j'ai retenu, l'intérêt de la République, les patriotismes, les nationalismes, les sérieux, la volonté politique. Voilà autant de choses que souhaitées par les auditeurs pour que le pouvoir public prenne ça comme le cheval de bataille pour réussir effectivement cette grande réforme.
Oui, merci Pierrot. Franchement, je salue les compatriotes qui ont posé des questions, qui ont donné leur avis. Ce sont des gens très intelligents et je les salue et vraiment je les respecte. Et en particulier M. Franck de Vienne, j'espère qu'un jour je pourrai le rencontrer parce que souvent nous partageons les mêmes idées sans se connaître. C'est des belles réflexions que je partage. Maintenant, je voudrais dire ceci aux auditeurs de Radio Capi pour planter un peu le décor. Le découpage territorial de notre pays était une nécessité. Pourquoi ? Prenons l'exemple de la province orientale. Cette province, c'est à peu près les mêmes dimensions que la France. Alors, une province où il n'y a pas de route, pas d'infrastructure, le gouverneur qui est à Kisangani, Pierrot, il faut qu'il ait un hélicoptère en permanence qui peut lui permettre de sillonner la province pour faire les inspections. Les choses. Mais il n'a rien. Je me demande même si il a un vélo, pour ne pas exagérer. Et donc, c'est des provinces très vastes. Province orientale, province de l'Équateur, le Bandundu, le Katanga. Si vous êtes à Lubumbashi, Kabale se trouve pratiquement à la mine. Donc, c'est des dimensions très vastes. Donc, il fallait réduire certaines provinces dans des dimensions gouvernables, administrables, pour rapprocher l'administration, justement, de la population. C'était une nécessité. Donc ça, il faut le souligner. Deuxième chose, j'ai entendu des auditeurs comme Félicien Lutine et particulièrement Hendrik de Colisi et surtout Ernest de Matadi qui ont posé le problème de province en disant mais ce n'est pas la première fois qu'on multiplie le nombre de provinces dans notre pays et ça a échoué. Pourquoi ça a échoué? Est-ce que ce qu'on est en train de faire maintenant, ça va réussir? Il faut rappeler à ce sujet effectivement qu'avec les lois des Adoula, hein, c'était en 1962-63, avec les lois Adoula, on a créé 22 provinces. On est parti de 6 à 22, plus Léopoldville. Et ça fonctionnait jusqu'en 1966-67, avec le coup d'État de Mobutu. Qu'est-ce que le maréchal Mobutu fait? Parce qu'il faut expliquer l'échec. Il envoie son ministre de l'Intérieur, le président Tshisekedi, l'actuel président de l'UDAPES, qui était son premier ministre de l'Intérieur, qui fait le tour des provinces 7 à l'époque. Et Tshisekedi ramène un rapport de mission, il dit à Mobutu, écoutez, monsieur le président, ça ne va pas. Dans les provinces 7, c'est l'anarchie la plus totale. On a vu le président, comment ils appelaient à l'époque, le président des provinces, certains, ils n'avaient pas de voiture, n'avaient pas de véhicule officiel. Il y a un qui avait un vélo, et c'est sur son vélo qu'on mettait le drapeau, et comme c'était un gouverneur, il ne pouvait pas pédaler, donc il était sur un vélo, on le poussait, et les gens criaient, le gouverneur passe, c'était ridicule. Pour montrer à quel niveau, dans certaines provinces 7, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Et le maréchal Mobutu décide finalement d'autorité de supprimer ces provinces 7, de revenir aux 6 provinces de 1960 et d'ajouter seulement 2, en coupant la province de Léopoldville en 2 et en coupant le Kasaï en 2. Donc 8 provinces. Voilà ce qu'il fait. En supprimant les provinces 7. D'ailleurs, Mobutu n'a même pas respecté le Parlement qui était en train de siéger. Lui, il prend tout simplement la baïonnette et déchire les lois d'Adoula. Donc, supprime les provinces 7 avec des coups de baïonnette. Voilà, parce que c'était l'échec. Ces provinces 7 n'avaient pas de moyens. Même les compétences pour gouverner ces provinces, c'était des primériens, des gens sans niveau, etc. Donc, il y avait beaucoup d'anarchie. Voilà pourquoi le maréchal Mobutu, à coups de baïonnette, a supprimé ces provinces 7. Maintenant, aujourd'hui, nous lançons l'expérience.
peut pas d'arriver à 22, mais à 26. Vous, il y a des difficultés que nous connaissons. On n'a pas besoin de on pourra passer toute une émission pour égrener les difficultés. Mais on est là. Ce que nous pouvons souhaiter aujourd'hui, c'est un souhait pour que les autorités de notre pays, le gouvernement qui s'est engagé dans cette grande réforme, prennent toutes les dispositions nécessaires, parce qu'on est au début, toutes les dispositions nécessaires pour qu'il y ait un minimum de moyens financiers à donner aux provinces. Nous savons que la situation est difficile. Le gouvernement central ne croule pas sous l'argent, ne baigne pas dans l'or. Le trésor public a des difficultés. Le pétrole, le prix du pétrole a baissé presque de moitié. Ce qui explique que, dans le contexte de l'État, il n'y a pas beaucoup d'argent qui rentre de ce côté-là. Le cuivre, etc., ça a baissé encore. Même si le prix était élevé, nous savons ce que c'est que le cuivre, le cobalt nous rapporte aujourd'hui. Pas grand-chose. Donc, nous avons des difficultés qui sont réelles, des difficultés financières. Il y a les élections qu'il faut organiser qui demandent de l'argent. Les provinces sont là, ça demande de l'argent. Les fonctionnaires sont payés, etc., etc. Donc, il faut, pour éviter le fiasco des années 60, les difficultés qui ont poussé le maréchal Mobutu à déchirer les lois à Doula, n'est-ce pas, pour supprimer les provinces, il ne faudrait pas qu'on retombe dans la même situation. Donc, il faut que le gouvernement, vraiment, prennent toutes les dispositions pour honorer notre peuple, pour faire respecter notre pays. Il ne faut pas qu'on se moque de nous en Afrique et dans le monde. Alors, ces nègres-là de la RDC, ils ont lancé une méga réforme sans moyens. Maintenant, c'est des difficultés partout, ça craque de partout, etc. Et ça ne va pas. Donc, le gouvernement devrait prendre des dispositions. Ce n'est pas facile de trouver ne fût-ce que quelques moyens, à ce stade, pour envoyer dans les provinces. J'ai dit dernièrement sur les antennes de Radio Okapi en disant, mais ces gens-là, s'ils n'ont pas de bâtiments, ils vont commencer à travailler sous les arbres. Il faut qu'ils commencent. Si quelque part, il y a une école secondaire, une école primaire qui a encore des murs, des bâtiments avec des murs debout, eh bien, le gouvernement va s'installer dans une école. L'Assemblée provinciale, s'il y a une paroisse catholique quelque part qui a une salle de réunion, eh bien, l'Assemblée provinciale va siéger dans une salle paroissiale d'une église catholique quelque part, pour qu'on commence. Donc, à chaque difficulté, une solution, ne serait-ce que provisoire, pour qu'on avance. Mais il faut un principe aujourd'hui, qu'il faut qu'on se mette d'accord là-dessus, que, au départ, les provinces, les nouvelles sont démunies. C'est ça qu'il faut constater. On a parlé du Haut-Lomeni, donc avec chef-lieu comme Kamina, dans le nord de l'ex-Katanga. Mais juste à côté, il y a aussi la province de Lomami, dans l'ex-Kasaï oriental, oui, comme ça. Mais province de Lomami, mais là, c'est pire que partout. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien. Le chef-lieu Kabinda qui est là, mais c'est des ravins à gauche à droite. On peut se demander si on peut mettre un chef-lieu dans la cité de Kabinda. Donc, il y a des problèmes partout. Lomami, d'autres provinces, le Kwilu, le Kwango, le Sankuru, etc. Bon, peut-être que le chef-lieu, le Sambo, parce que le Sambo fut le chef-lieu de la province du Kasaï, à l'époque coloniale. Mm-hmm. Avant que le chef-lieu aille à Lobourg, c'était d'abord le Sambo. Il y a peut-être quelques vieux bâtiments laissés par les Belges là-bas, à l'époque coloniale. Les gens vont peut-être s'asseoir là-bas, commencer à travailler. Mais on a des difficultés, effectivement. Le gouvernement ne peut pas tout résoudre pour le moment, mais il faut éminemment. J'ai beaucoup salué ceux qui disent, bon, écoutez, mais il faut quand même que les gens fassent preuve de patriotisme, mais il faut que, sur le plan local, qu'il y ait des initiatives. C'est vrai. On ne peut pas tout attendre du gouvernement central. Il faut qu'il y ait des efforts au niveau local, au niveau provincial. Les gens ont réclamé des provinces, mais il faut que, sur le plan provincial, que la population locale, avec les autorités provinciales, prennent des initiatives, prennent des mesures pour générer certaines ressources sur le plan provincial. Vous n'allez pas demander l'autonomie. Et on vous donne l'autonomie, mais vous continuez à garder la main tendue vers le pouvoir central, au pouvoir auquel vous avez demandé l'autonomie qu'on vous a accordée. Et puis, je termine sur ce point pour dire que les gouverneurs, parce qu'on a beaucoup de candidats maintenant, il y a des candidats gouverneurs dans toutes les provinces, qui s'est rue, etc. Messieurs les candidats gouverneurs, vous n'allez pas là-bas pour être élu gouverneur, pour aller faire du commerce. Alors, vous allez là-bas, c'est pour défendre le bien commun. Mm-hmm. Vous allez là-bas, une fois gouverneur, avec vos gouvernements provinciaux, c'est pour défendre l'intérêt général. Vous allez là-bas, c'est pour aller travailler, pas pour chercher à rouler dans des véhicules 4x4 avec des cortèges de policiers qui vous saluent, pour vivre dans le plaisir, dans l'illusion, avec les honneurs militaires. Messieurs, c'est bien d'être candidat, on va vous appeler Excellence Gouverneur, mais nous, on n'a pas besoin de ça, Excellence Gouverneur. Nous avons besoin des travailleurs, des gens qui vont prendre la direction des provinces pour produire des projets de développement, pour se concentrer, encadrer la population, lancer des projets de développement, bien gérer les affaires de la province, mais pas plutôt pour être là, bomber la poitrine, comme vous appelez le gouverneur, 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 et commencer à faire du commerce, gagner l'argent, oublier de faire le travail qui est là, la défense de l'intérêt général, la protection des personnes et de leurs biens, et des projets de développement qui vont donner du travail à la population.
Le professeur, il y a un prêtre qui a transmis le message à la rédaction, disons, à la réalisation des, si vous regardez avec moi les moniteurs, c'est par rapport aux 22 provinces, pour lui, il dit non, c'était la question de Lulabo, non, Cyril Abdoulaye, il voudrait avoir des précisions, vous voyez, vous avez vu le message, comment il vient d'arriver à faire avec moi dans ce studio.
Je vais répondre à M. Tchombe qui a fait ça, je crois qu'il fait la confusion. Donc, les lois Adoula ont été. C'était d'ailleurs après le conclave de Lulabo.
Hein, mm-hmm. Quand la constitution de Lulabo n'avait jamais été mise en.
Mais Lulabo, c'est en 1964. Tchombe est arrivé après. La constitution de Lulabo a été faite par Kassavubo, qui a créé la commission gouvernementale, qui a fait ce projet, qui a été adopté au référendum le 1er août 1964. Mais les 22 provinces, on appelait province 7, définitif, ont été mises en place à partir de 1962, au mois d'août. Et d'ailleurs, la première province qui a été créée, c'était la province du Nord Katanga. Et donc, c'est Adoula, les lois Adoula qui ont fait ça. Et prévu ça, il y a eu des discussions, il y a une loi qui prévoyait des critères. Pour moi, ça, c'était bien fait, hein, vous voyez. Parce qu'avec les lois Adoula, on a dit des critères. Sous quels critères et sous quelles conditions une entité peut être érigée en province. Il y avait des critères. Mm-hmm. Je ne vais pas faire toute une émission, si vous voulez, on peut organiser une émission là-bas. Ce sont des lois que je connais bien que je vais être. Alors, on a fixé des critères. Et en ce moment, les politiciens qui étaient là, chacun voulait avoir la province chez lui. Mm-hmm. Pour rentrer au village, dire voilà, je vous ai apporté la province. Donc il y avait des critères, c'était bien fait, en termes de nombre de populations par exemple. Parce qu'il faut une masse critique des habitants qui peuvent payer des taxes, payer des impôts pour alimenter la caisse de la province. Parce qu'il ne faut pas attendre qu'il y ait ça. Il faut faire un travail sur le plan provincial. Donc il y avait des critères qui étaient bien indiqués, et c'était dans ces lois Adoula. Et donc, d'ailleurs, au mois d'août, il y a eu déjà à peu près 14 provinces. Et puis on a ajouté d'autres provinces en 1963. Donc ce n'est pas la constitution de Lulabourg qui est venue plus tard, mais c'est dans les lois Adoula qui se sont qu'on a pu installer ces derniers problèmes.
Merci beaucoup pour la précision. Je crois bien notre auditeur qui est en train de nous suivre à Lubumbashi a pu suivre la précision avec le professeur 081-890-6315. Jean-Marie Fakinchassa, Dominique Amboujumaï. Rapidement, professeur, je crois bien, selon la loi de programmation des mises en place de ces six provinces, il y a peut-être aussi un problème politique qui peut marcher à côté de ces provinces. Il y a les élections provinciales qui doivent intervenir. On sait que les assemblées provinciales qui vont, ils sont provisoires, les gouverneurs qui seront élus, les 31, qui sont les gouverneurs provisoires, et tout au plus tard au mois d'octobre, on doit avoir encore les élections provinciales pour de nouvelles assemblées provinciales qui doivent en principe passer encore aux élections pour avoir des gouverneurs qui seront définitifs. Alors, comment tout cela doit-il être géré avec autant de provisoires qui doivent conduire la politique dans quelques mois pour avoir les définitifs qui doivent définir leur politique? Comment on va peut-être s'en sortir sur le plan politique cette fois-ci, un peu rapidement?
Oui, c'est vrai qu'il se pose des problèmes de superposition ou de chevauchement. C'est un problème qui est réel, mais ce sont des questions, Pierrot et la Mégie, qu'on va résoudre de manière pragmatique. Il est vrai que si les élections des gouverneurs interviennent le 31 août, la date est déjà là. On va installer les gouvernements provinciaux et puis l'ordonnance du président. On est parti jusqu'en septembre. Or, vers le 24 septembre, c'est déjà le début, comme vous le dites, oui, de la campagne électorale pour les élections provinciales, pour élire des nouveaux députés provinciaux qui vont mettre en place les nouveaux gouvernements. Écoutez, à mon avis, si ce calendrier est maintenu et que les choses évoluent telles que vous venez de les poser, eh bien, les nouveaux gouvernements provinciaux ou les nouveaux gouverneurs seront là pour faire la transition. Le passage de 11 à 26. Ce seront des objets de transition, pratiquement. Parce que, à mon avis, ce sont les gouverneurs qui seront élus au mois de mars ou de février 2016, mm-hmm, qui auront alors une législature de 5 ans. qui pourra avoir un programme de gouvernement dans leur province. Ils ont du temps pour élire cela. Et donc, ce sont ces gens-là avec lesquels on va faire un bon travail.
Un bon travail.
Mais ce qu'on vient de lire maintenant, là, ils sont là pour 3, 4 ou 5 mois. C'est, à mon avis, ce sera pour garder la maison.
On va suivre le dernier auditeur rapidement. Jean-Marie, vous êtes ici à Kinshasa, vous êtes avec nous, vous avez suivi les uns et les autres, c'est la ligne droite vers la fin de cette émission. Jean-Marie, bonjour, on vous écoute rapidement.
Jean-Marie, bonjour, vous êtes avec nous. Bonjour, oui. Bonjour, notre invité. J'ai bien suivi, nous sommes en train, je prends quelques 2 minutes.
Oui, allez-y rapidement.
Je salue l'initiative du gouvernement pour mettre en pratique une des dispositions de la Constitution, le démembrement des provinces. C'est quelque chose attendu de tout le monde depuis le papa, l'intervenant nous a rappelé cela depuis mon début. Mais maintenant, ce qui est sur le terrain, les analyses que nous faisons vont dans le sens où nous sommes devant nous avec des difficultés et le gouvernement seul ne peut pas. Donc, tout le monde ne peut pas tout attendre du gouvernement central. C'est là qu'intervient la responsabilité du gouvernement de province ou du gouverneur de province.
Mm-hmm.
Alors, si nous mettons toutes ces réalités devant nous, vous voyez qu'il y a des erreurs qu'on a pu accumuler dans la gestion du gouvernement, ou par exemple, les provinces ou le gouverneur de province ont géré en maître les provinces, où on n'a pas bien géré les provinces. Et si vous faites des analyses, tous ceux qui sont en train de gérer les provinces aujourd'hui sont du gouvernement, sont de la majorité, sont du pouvoir en place. On ne fait pas de prévisions. Gouverner, c'est prévoir. Prévoir, c'est savoir. Alors les difficultés qu'on trouve maintenant, tout fait depuis le gouvernement central, c'est parce qu'on n'a pas eu une bonne politique de gestion de nos provinces. Quel type d'homme, quel type d'animateur qu'on peut encore avoir aujourd'hui pour conduire nos provinces de manière transitoire, provisoire.
Merci beaucoup.
Le même merci. Qui revienne.
Merci beaucoup Jean-Marie. Hein. Rapidement, on ne saura pas, parce qu'il faut que l'invité puisse conclure. Nous allons écouter Dominique qui est en Bujumaï et dans la province du Kasaï oriental. Dominique, vous êtes avec nous. Bonjour. Un peu rapidement, votre point de vue. Mais Dominique, vous êtes avec nous. Bonjour, Dominique. Dommage, on a perdu Dominique. Nous allons directement à Kisangani. Kisangani, c'est dans la province de la Tchopo, je crois bien. Dieu merci, vous êtes avec nous.
Oui, bonjour à la radio Kati. Bonjour à tous les auditeurs ainsi qu'à l'invité.
Vous êtes à Kisangani dans la province de la Tchopo. Vous avez suivi les uns et les autres pour terminer avec vous. Quel est votre point de vue?
Oui, merci beaucoup pour la parole. Mes prédécesseurs ont tout dit. Moi, je pense que le premier défi à relever, c'est le changement des comportements de nos acteurs politiques et qui vont miner ces entités.
Mm-hmm.
Pas ici, une famille politique qui s'impose à la place des élites qui représentent le souverain premier pour la prospérité de leur institution. Dès le nouveau gouvernement, s'il n'est pas accordé, il ne sera pas en mesure de faire quelque chose de bien. Ça sera donc un décollage. Voilà un peu ma contribution par rapport au thématique.
Merci beaucoup, Dieu merci. On a mis en place le 26 provinces. Vous estimez qu'il faudrait aujourd'hui un changement du comportement des acteurs politiques hein, qui vont animer des nouvelles institutions. Tout à l'heure, Jean-Marie de Kinshasa le disait aussi qu'il y a eu beaucoup de difficultés qui sont nées de la gestion des anciennes provinces par les différents animateurs et comment tout cela doit être réglé cette fois-ci, le changement des comportements. Professeur, on a suivi les uns et les autres, on peut conclure cette émission et ce qu'on peut souhaiter pour l'avenir de cette nouvelle configuration de la RDC en 26 provinces.
Oui, merci beaucoup Pierrot. Je voudrais souligner un point dont on n'a pas parlé au cours de cette émission, mais qui va. C'est vrai que la grande difficulté aujourd'hui, c'est les moyens financiers et matériels qu'il faut donner aux nouvelles provinces pour que ça marche bien.
Mm-hmm.
Nous avons tous lancé un appel au gouvernement de voir, dans la mesure du possible, qu'est-ce qui peut être fait maintenant, n'est-ce pas, en attendant ce plan pluriannuel. C'est important. Deuxième chose qui risque de perturber les choses, parce que pour le moment, ça marche bien. Il y a encore du calme un peu partout. Mais il y a, ça il ne faut pas perdre de vue, il faut demander au notre gouvernement de veiller à cela. Il ne faut pas que dans certaines provinces, qu'il y ait, où il y a des revendications, n'est-ce pas, d'ordre communautaire, il faut que cela soit. Je peux donner l'exemple du territoire de Mandajika, dans la province de l'ex-province Kassa-Orientale. Il y a les populations, par exemple, de Mandajika qui ont introduit de pétitions depuis plusieurs années, qu'ils ont même renouvelé récemment, pour dire que sur le plan de l'administration, par exemple, ils souhaiteraient rester dans le Kassa-Oriental plutôt que d'aller dans la province de l'Omani. Et donc, il faut que le gouvernement traite ce type de dossier avec beaucoup de sagesse et beaucoup de responsabilité pour éviter que cela n'arrive à certains conflits intercommunautaires qu'il faut éviter. Et donc, il faut prendre aussi en main ce type de situations qui ne sont pas nombreuses à travers le pays, qui sont localisées, il faut les résoudre pour qu'il y ait la paix sociale, qu'il y ait la paix dans toutes nos provinces, de manière à ce qu'on s'attaque à ce qui est le plus essentiel, le plus fondamental, la pauvreté. C'est notre ennemi qu'on met dans ce pays. C'est le monstre qui nous tue et qui nous bouffe chaque jour ici. Il faut combattre ce monstre avec beaucoup de détermination, c'est la pauvreté, et donc le gouvernement. D'un côté, il faut donner des moyens, des financiers, etc., pour que les provinces comprennent. Et puis, là où il y a des problèmes, d'autres administratifs, comme dans le cadre du territoire de l'Indagir, il faut les aborder avec beaucoup de responsabilité et de sagesse, de manière à calmer la population et à maintenir la paix sociale sur l'ensemble de notre territoire.
Merci beaucoup, professeur Soubam Kalala, d'avoir accepté notre invitation et éclairé les auditeurs sur cette question. C'est le souhait de tout le monde que la RDC puisse aller de l'avant dans cette nouvelle configuration avec le 26 provinces. Merci à toute l'équipe qui nous a aidé à produire cette émission. Jean-Claude Tiala a assuré la mise en onde, Julie Pézabongonda était à la réalisation, Jérôme Lungembo à la coordination. Pierrot et la Méjibou l'a présenté sous la supervision de Martin Sebou-Jangoué. Vous allez retrouver Parole aux auditeurs sur www.radiocapi.net pour les moment. Il nous reste à vous souhaiter un agréable week-end en compagnie de Radio Capi, mais n'oubliez pas, le rendez-vous, c'est le lundi à 11h30, heure de Kinshasa. Au revoir.